Le journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonjour Aurélie, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Nouvelle journée difficile pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique mise toujours sur des élections anticipées, mais son propre frère l'a lâché ce matin. Nous irons à Londres. La Turquie réclame plus d'aide internationale face à l'afflux de réfugiés. Sinon, prévient le président Erdogan, nous serons obligés d'ouvrir les portes. À quoi ressemble un procès devant une cour criminelle? Nouvelle juridiction permettant de juger des crimes sans jury populaire. Florence Turm a suivi la toute première audience. Les ports de Marseille, Nice et Toulon veulent en finir avec la pollution des navires de passagers. Un plan de 30 millions d'euros prévoit notamment l'électrification de quais. Reportage d'Olivier Martoc. Les difficultés s'accumulent pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique accuse le coup après le revers que lui a infligé le Parlement hier. Boris Johnson se raccroche à un espoir, celui de réussir à organiser des élections législatives anticipées. Mais ce matin, son frère Joe a quitté le gouvernement, affirmant placer l'intérêt national avant la loyauté familiale, Marie-Pierre Véraud.
Et cette démission, c'est un nouveau coup de théâtre dans ce feuilleton du Brexit qui se la joue Dallas à présent, puisque, en effet, le frère cadet du Premier ministre Joe Johnson a claqué la porte du gouvernement. Il était ministre des universités, déchiré, écrit-il dans un tweet, entre la loyauté envers sa famille et l'intérêt national. C'est dévastateur pour Boris Johnson, qui a essayé, dit-on, toute la nuit de convaincre son frère de changer d'avis. Pour vous dire à quel point l'heure est grave, jusqu'à présent, les Johnson, qui, hormis Boris, sont attachés à l'Europe, avaient toujours évité de laver leur linge sale en public. Lors des repas familiaux, le sujet était même soigneusement évité. Mais le Brexit fait voler en éclats la solidarité familiale la mieux établie. Et cette défection s'ajoute aux désertions du parti conservateur. En 3 jours, 23 députés ont quitté le parti. Un parti qui ne cesse de se radicaliser, qui n'accepte plus que s'expriment des opinions diverses. L'atmosphère de purge est devenue insupportable à beaucoup. Mais Boris Johnson espère en effet se refaire une santé avec des élections anticipées. Il veut revenir devant les députés une fois leur loi adoptée, cette loi qui écarte le risque d'une sortie de l'Union sans accord. Alors, pas sûr qu'il obtienne une majorité pour cela, mais il est déjà en campagne. Il va prendre les électeurs à témoin, accuser l'opposition de lâcheté si elle refuse encore de se confronter au suffrage universel. Et il peut tenter de marquer des points en jouant une opinion lassée de ses reports à répétition contre Westminster. Il est d'ailleurs dès aujourd'hui sur le terrain dans le Yorkshire pour délivrer ce message.
Marie-Pierre Véraud à Londres pour France Culture. Le président turc lance un ultimatum aux Occidentaux. S'il n'aide pas son pays à créer dans le nord de la Syrie une zone de sécurité pour abriter les réfugiés, il ouvrira les portes, sous-entendu les portes de l'Europe, aux 3,5 millions de Syriens que la Turquie accueille déjà. Et au passage, Recep Tayyip Erdogan renouvelle ses menaces d'intervention militaire en Syrie. Les précisions d'Anne Andlauer à Istanbul.
C'est avec les Américains qu'Ankara négocie actuellement les contours d'une zone dite de sécurité à la frontière turco-syrienne, mais ce sont les Européens qui sont les premiers concernés par l'ultimatum du président turc. Recep Tayyip Erdogan voudrait renvoyer dans cette zone au moins 1 million des plus de 3,5 millions de Syriens réfugiés en Turquie. Si les Occidentaux ne l'y aident pas, Ankara menace donc une fois de plus de remettre en cause l'accord migratoire signé avec l'Europe en mars 2016. Cet accord prévoyait entre autres que la Turquie bloque les réfugiés aux frontières européennes, ce qui est le cas depuis plus de 3 ans.
Si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, nous serons contraints d'ouvrir les portes. Donc, soit vous nous soutenez, soit, désolé de vous le dire, mais nous avons des limites. Est-ce que nous devons être les seuls à supporter cette charge ? Je l'affirme ici, le monde, à commencer par l'Union européenne, n'a pas partagé avec nous la charge des réfugiés syriens comme il aurait dû le faire. Et c'est pour obtenir ce soutien que nous pourrions être contraints d'agir ainsi.
Au-delà du retour des réfugiés en Syrie, cette zone de sécurité aurait pour objectif d'empêcher les forces kurdes syriennes de s'établir durablement aux frontières de la Turquie. Et là encore, Recep Tayyip Erdogan lance un ultimatum. Si la zone promise par les États-Unis n'est pas créée d'ici la fin du mois, l'armée turque pourrait lancer une nouvelle offensive en Syrie.
À Nandlauer, à Istanbul. L'éolien s'essouffle en Allemagne, à l'heure où le pays doit augmenter ses capacités en énergie renouvelable pour respecter ses engagements climatiques. Le développement de l'éolien, qui représente 20% de la production totale d'électricité, est au point mort. Les acteurs du secteur se sont réunis aujourd'hui à Berlin autour du ministre de l'économie, Nathalie Vercieux.
L'Allemagne s'était équipée de 6,6 gigawatts de nouvelles capacités éoliennes en 2017. Ce sera moins de 1 gigawatt en 2019. Le secteur, dopé par la loi sur le développement des énergies renouvelables de 2000, s'est brusquement rétracté depuis que la nouvelle coalition au pouvoir a décidé de réduire de façon drastique les subventions accordées aux énergies renouvelables. L'Allemagne compte 30 000 éoliennes terrestres. La plupart sont la propriété de communes ou de groupements de citoyens assurés par la loi sur les énergies renouvelables de vendre le courant produit à un prix supérieur à celui du marché. Les quatre géants de l'électricité en Allemagne sont quasiment absents de ce secteur d'avenir. Est-ce la raison qui a poussé le gouvernement à encadrer les subventions accusées de plomber les finances publiques? Depuis la réforme en 2016, le nombre de nouvelles installations a reculé de 82% et le secteur a perdu 26 000 emplois. L'opposition des ruraux à la construction de nouvelles éoliennes est le second problème du secteur. Le parti d'extrême droite AFD a fait notamment de la lutte contre les éoliennes l'un des piliers de sa politique énergétique.
Face à l'engorgement des cours d'assises, une nouvelle juridiction a été créée par la réforme de la justice. Les cours criminelles, instance sans jury populaire, vont être testées pendant 3 ans dans cet département. Elles jugeront les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion, principalement les viols et les vols à main armée. Le premier procès devant une cour criminelle s'ouvrait ce matin à Caen, dans le Calvados. Un homme accusé de tentative de viol faisait face à 5 magistrats. Récit de Florence Turmacan.
3 hommes et une femme en robe noire ont pris place de part et d'autre de la présidente de la cour. Les autres sièges sont restés vides derrière eux, tout comme les bancs du public. 4 magistrats professionnels pour remplacer les jurés populaires et juger cette affaire de tentative de viol, passible de 15 ans de réclusion criminelle. Affaire un peu singulière, il est vrai, les faits remontent à 2007, pas de témoins, pas de partie civile non plus. La plaignante est décédée accidentellement. En 2012, elle n'a jamais pu être confrontée à son agresseur présumé. L'homme qui comparait libre aujourd'hui, un agent de sécurité de 36 ans, carrure massive mais voix calme, n'a été identifié que plus tard grâce à l'ADN retrouvé sous les ongles de la jeune femme. Lui nie les accusations portées contre lui, évoque une relation consentie. Elle est allée porter plainte, certificat médical à l'appui dès le lendemain. Pas d'expert à la barre, mais la présidente prend le temps d'examiner la personnalité de l'accusé. Interrogatoire incisif qui souligne de multiples contradictions. Les autres magistrats questionne également, comme peuvent le faire des jurés ordinaires. La grande différence, c'est que tous aujourd'hui disposent du dossier, contrairement à une cour d'assises centrée sur le principe de l'oralité des débats. Dossier qu'ils ont emporté avec eux pour délibérer, là où les jurés ne peuvent disposer que de notes prises durant les débats, à l'appui de leur intime conviction. Cet article de loi empreint de solennité qui résonne toujours en assises et que l'on n'a pas entendu tout à l'heure, avant que cette première cour criminelle ne se retire il y a maintenant 2 heures pour délibérer.
L'avocat général a requis 5 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis. La défense a plaidé l'acquittement. 10 ans après l'accident du vol Air France 447 Rio-Paris, la justice a ordonné un non-lieu général pour Airbus et Air France. 228 passagers et membres d'équipage étaient morts le 1er juin 2009. Un rapport avait mis en cause les sondes chargées de mesurer la vitesse de l'appareil. Mais pour les juges, la cause directe de l'accident est la perte de contrôle de la trajectoire de l'appareil par l'équipage. L'association de familles de victimes française Entraide et Solidarité AF 447 dénonce un déni de justice et va faire appel. Comment passer de 42 régimes de retraite à un régime universel? Après les discussions menées par le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, et la remise de son rapport en juillet, Édouard Philippe reçoit à son tour les partenaires sociaux depuis ce matin et jusqu'à ce soir. Vous êtes sur place à Matignon, Annabelle Grelier. Changement de ton donc de la part du gouvernement, il se montre à l'écoute et chacun peut faire part de ses réactions et de ses propositions.
Oui, c'est Yves Verrier, le patron de Force Ouvrière, qui a ouvert le bal ce matin. A-t-il eu le sentiment d'être écouté? Oui. Entendu? On verra, a-t-il dit avec beaucoup de prudence. L'important pour Yves Verrier était de rappeler fermement au Premier ministre pourquoi son syndicat est opposé au système unique à points.
Demain, le système unique par points, de facto, sera entre les mains des gouvernements. Ce sera une réforme paramétrique permanente. Les gouvernements auront tout loisir de jouer sur la valeur du point à l'achat, la valeur de service du point au moment de partir à la retraite. Et on parle de la retraite de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est un enjeu majeur d'importance. Notre responsabilité est grande. Ce sont les générations futures qui seront mises à la sauce du système unique par points.
La suppression des 42 régimes pour une retraite universelle ne fait pas peur à la CFDT. C'est même le seul syndicat qui y est favorable. En revanche, sur l'objectif du gouvernement d'atteindre l'équilibre financier en 2025, Laurent Berger voit rouge et la polémique sur le recul de l'âge de la retraite à taux plein et l'âge pivot l'exaspère.
Finalement, on voit bien qu'avec cet âge pivot, le débat il a dévié, il est parti sur autre chose. On a l'impression maintenant qu'on est en face d'une nécessité budgétaire avec cette réforme des retraites. Il n'y a pas, je le répète, de nécessité budgétaire urgente. Qu'il y ait une volonté d'avoir à terme l'équilibre, c'est une évidence. Mais par contre, une logique budgétaire, ce n'est pas une logique que l'on poursuit. Et donc, si cet âge pivot, il concentre cette idée que c'est l'âge qui serait l'enjeu et de travailler plus longtemps qui serait l'enjeu de cette réforme, on se plantera.
Pour Laurent Berger, il y a bien d'autres sujets d'importance à régler, comme la pension minimum, la prise en compte de la pénibilité ou encore les carrières hachées. Concernant la méthode et le calendrier, le Premier ministre en dira plus la semaine prochaine. Mais le MEDEF, ce soir, a souhaité que cela ne prenne pas trop de temps. Geoffroy Roux-de-Bézieux voudrait voir un projet de réforme fin prêt dans le courant du premier semestre 2020.
Annabelle Grolli en direct de Matignon. Les abonnés à la box d'Orange ne peuvent plus regarder BFM TV depuis ce matin. La chaîne d'info en continu a été coupée vers 9h, ainsi que les chaînes RMC Découverte et RMC Story. Une coupure identique à celle décidée par Free il y a 10 jours. Alors les téléspectateurs font les frais d'un désaccord financier. Altice, la maison mère de ces chaînes, réclame une rémunération à Orange et à Free en échange de la diffusion. Et aujourd'hui, Maxime Tellier, le bras de fer a atteint des proportions jamais vues.
Oui, officiellement, c'était un scénario que tout le monde voulait éviter, mais voilà, il s'est réalisé un écran noir à la place de BFM TV, la première chaîne d'information en continu de France, indisponible sur Orange et ses 12 millions d'abonnés, indisponible sur Free également depuis 10 jours. Free qui compte 6 millions d'abonnés, c'était sans doute trop pour Alain Veil, le patron d'Altice, la maison mère de BFM TV et de RMC. Il a annoncé ce midi lors d'un point presse qu'il ne demandait plus finalement de rémunération pour la diffusion en direct.
On veut sortir d'une polémique, ça n'a pas de sens de passer autant de temps pour des enjeux financiers à court terme qui sont très petits. On parle de quelques millions d'euros, y compris pour les plus grands groupes. On a, c'est vrai, détendu la discussion en disant, bah écoutez, disposer du service linéaire, et puis comme on n'est pas d'accord sur le prix des services associés, eh bien, on verra plus tard. Et puis il y a les téléspectateurs qui sont là, les téléspectateurs fidèles depuis des années. Donc, on met à disposition le signal et puis on compte sur la qualité de nos services associés pour trouver les mêmes accords financiers dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent.
Et alors Veil qui a annoncé le retour du direct d'ici quelques heures sur Orange, il n'a pas encore parlé de Free. Mais ce qui se joue derrière ce conflit, c'est bien le modèle économique de la télévision nouvelle génération qui se consomme désormais notamment en différé avec des plateformes de diffusion à la demande, ce qu'Alain Veil appelle des services associés. L'an dernier, TF1 et M6 ont mis un pied dans la porte en arrachant une rémunération de la part d'Orange et de Free en échange de la mise à disposition de ce service. Mais concernant BFM et RMC, les contenus et l'audience sont insuffisants pour être payés autant, estiment les opérateurs qui n'ont donc pas hésité à couper le direct. La suite des négociations s'annonce donc franche. Quant aux dirigeants de BFM et de RMC, ils ne se disent pas inquiets pour l'audience. Elle est toujours deux fois plus élevée que CNews concernant BFM TV, CNews étant la deuxième chaîne d'information au classement.
Maxime Tellier. Au lendemain de l'annonce par Cédric Villani du maintien de sa candidature à la mairie de Paris, en dissidence de Benjamin Griveaux, une nouvelle candidate part en campagne. À la tête d'un collectif citoyen, Daniel Simonet, élu de la France Insoumise, prétend proposer la seule liste en rupture avec les politiques menées jusqu'à présent dans la capitale, Sophie Delpont.
Oui, Daniel Simonet, élu sortant du 20e arrondissement, propose d'instaurer une pratique locale du référendum d'initiative citoyenne prôné par les Gilets jaunes, la réquisition des logements vides et le blocage des loyers notamment. Et pour elle, la candidature dissidente de Cédric Villani face à Benjamin Griveaux ouvre de nouvelles perspectives.
Ça prouve que tout est ouvert dans cette municipale. Personne ne peut prédire ce que sera l'issue du scrutin. Et par contre, que ce soit Villani, que ce soit Griveaux, que ce soit Madame Hidalgo, finalement tous ces candidats-là, ils sont d'accord sur l'essentiel, sur la politique d'attractivité. Donc ils vont poursuivre la logique qui favorise la spéculation. Finalement, en trois mandatures, d'Hidalgo et de Lannoy sur Paris, on se retrouve dans une situation de gentrification, de bétonisation et de privatisation. Pour lutter contre cela, il faut que les citoyens et citoyennes s'en mêlent.
Sans alliance avec les communistes ou les écologistes, elle lance cette stratégie avec Claudio Pulgar-Pino, militant associatif franco-chilien pour le droit à la ville, qui met en avant les implications des citoyens à Berlin et à Vienne, où les municipalités mènent des politiques offensives pour développer les logements sociaux. Il souligne aussi l'expérience menée en ce moment dans la ville chilienne de Valparaiso.
Une assemblée citoyenne a gagné la ville de Valparaiso, qui est la deuxième ville la plus importante au Chili, avec cette idée municipaliste, où c'est des assemblées à niveau local, les mouvements sociaux, les mouvements associatifs, qui construisent un projet large, ouvert et collectif, avec une idée de démocratiser les décisions.
En pratique, cette campagne sera lancée sur le terrain demain soir à Ménilmontant, dans le 11e arrondissement de Paris, lors d'un apéro citoyen, avec notamment l'objectif d'organiser 1000 porte-à-porte pendant la campagne.
Sophie Delpont. Dans la région PACA, un habitant sur deux respire un air trop pollué et une bonne partie de cette pollution est due au transport maritime. À Marseille, par exemple, il représente jusqu'à 40% des émissions d'oxyde d'azote. Pour lutter contre la pollution de l'air causée par les ferries et les paquebots à Marseille, Nice et Toulon, le plan Escale zéro fumée a été présentée ce matin au Conseil régional en présence de la ministre de la Transition écologique et du nouveau secrétaire d'État aux transports. Un plan de 30 millions d'euros qui espère concilier activité économique, développement du tourisme et protection de l'environnement. La mesure la plus emblématique est l'électrification des quais. Reportage d'Olivier Martoc à Marseille.
Dans la salle, les oreilles des armateurs et des représentants des professions maritimes très nombreux ont dû siffler. Pour une fois, la langue de bois n'était pas au programme des politiques, à commencer par Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire.
Pour tous les habitants des villes portuaires, voir des panaches de fumée dans les ports, c'est quelque chose d'insupportable. On sait que par exemple ici à Marseille, sur les oxydes d'azote, c'est le transport maritime qui est passé devant la circulation routière. Donc ça montre à quel point cet enjeu est important.
Même tonalité pour Renaud Muselier, le président de la région, qui met 30 millions sur la table pour électrifier les quais de Marseille, Toulon et Nice.
Il y a trois volets. Il y a les ferries avec les personnels, les cargos avec le matériel et les croisières. C'est trois problèmes très différents qu'il faut traiter en même temps, parce que nos populations ne supportent plus ces fumées noires qui vont sur les ports. Et donc on a nécessité de brancher tout ça à quai. N'oubliez jamais qu'un bateau de croisière qui séjourne pour une escale, c'est la consommation électrique de la ville de Toulon. Donc c'est pas une petite prise électrique qu'il faut mettre là.
Coût pour les armateurs et par bateau, compte tenu des aides, environ 800 000 euros. Ce matin, ils étaient les seuls pas vraiment enthousiastes à l'annonce de ce plan, mais résignés, car l'opinion publique a clairement gagné cette bataille.
Olivier Martoc à Marseille. Le coq Maurice peut continuer de chanter sur l'île d'Oléron. Le tribunal d'instance de Rochefort en Charente-Maritime rejette la plainte des voisins qui l'accusaient de les réveiller trop tôt. La procédure engagée par ce couple de retraités, propriétaires d'une résidence secondaire à Oléron, est mal fondée aux yeux du tribunal qui condamne les plaignants à verser 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette querelle de voisinage, largement relayée et commentée sur les réseaux sociaux, est devenue un symbole des tensions entre Jean Ducru et nouveaux arrivants dans les campagnes, voire de conflits entre ruraux et urbains. Aux yeux du géographe Jean-Louis Yenge, qui dirige le laboratoire ruralité de l'université de Poitiers, cette affaire est même symptomatique de l'évolution des espaces ruraux ces dernières années.
Depuis une quinzaine, vingtaine d'années, les territoires ruraux ont d'autres fonctions que la fonction productive agricole. Dans les espaces ruraux, l'agriculture est minoritaire en termes d'emploi, en termes d'impact économique, bien sûr majoritaire en termes d'occupation du sol. À côté de l'agriculture, il y a d'autres fonctions aujourd'hui, la fonction résidentielle. On a de plus en plus de personnes qui vont s'installer loin des villes. Dans les espaces ruraux, on a de plus en plus des promeneurs. Il y a une fonction récréative, une fonction touristique. C'est la deuxième destination touristique en France aujourd'hui, les espaces ruraux. Et puis les espaces ruraux, c'est aussi des espaces de préservation des zones naturelles. Donc il y a tout ça qui se mélange. Et donc forcément, il y a de multiples usagers aujourd'hui des espaces ruraux. Et comme à chaque fois qu'on a un usage différent d'un objet, ça peut créer des incompréhensions. Et donc, pour moi, l'un des conflits les plus récurrents dans l'espace rural, ce n'est pas le bruit, c'est le problème des pesticides. Ça peut être également des problèmes d'aménagement du territoire. Ce sont les conflits, en tout cas dans mes études, que je vois un peu plus. Ensuite, on a quelques éléments exotiques, le coq, la cigale, le crapaud, j'ai vu quelque part la mouche. Mais si ça montre quelque chose, ça montre cette évolution de l'espace rural.
Le géographe Jean-Louis Yenge répondait à Rosalie Lafarge. Plusieurs départements touchés par les sécheresses font face à des incendies. Le Gard, l'Ardèche, l'Aude, la Charente-Maritime, l'Indre, la Gironde et les Pyrénées-Orientales sont concernés. Ce soir, les feux sont pour la plupart fixés, mais plusieurs centaines d'hectares de végétation ont brûlé. Demain vendredi, le temps sera plutôt ensoleillé en France, mais il y aura encore des pluies au sud-est. Et en soirée, un temps couvert et humide s'installera du nord de la Bretagne au Hauts-de-France. Il fera frais demain matin, 2 à 10 degrés sur la moitié nord et dans le massif central, 8 à 20 au sud. Les maximales seront en légère hausse, 18 à 25 du nord au sud, 24 à 29 sur le pourtour méditerranéen. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.